Le document qu'on examine aujourd'hui, c'est un projet d'article journalistique qui détaille le retour prévu du prince Harry et de Meghan au Royaume-Uni en 2026, avec pour objectif de bien séparer les faits confirmés des spéculations médiatiques.
Ouais.
Et un thème clé qui ressort de ce matériel, ça semble vraiment être cette volonté de distinguer rigoureusement ce qui est avéré de ce qui relève de la simple rumeur.
Tout à fait.
L'auteur fait un effort conscient, je trouve, pour pas tomber dans le sensationnalisme, ce qui est tout à son honneur, d'ailleurs.
Oui, c'est louable.
Mais en lisant le manuscrit, l'alternance constante entre le concret, genre les inscriptions scolaires ou la résidence, et le spéculatif, comme les tensions familiales et les finances, bah ça donne vraiment l'impression de marcher sur un pont suspendu en pleine tempête, tu vois ?
C'est une super image, ouais.
Le lecteur, il sait jamais s'il pose le pied sur du bois massif ou directement dans le vide.
C'est exactement ça. Et en fait, l'organisation actuelle, elle mélange ces faits logistiques tangibles et ces spéculations sur les motivations de manière presque aléatoire. Et ça, c'est clairement la principale faiblesse structurelle du texte. Le lecteur y subit un véritable coup de fouet cognitif, quoi.
Ah, carrément.
L'article passe d'une donnée logistique confirmée, par exemple l'inscription à l'école en 2026, à des supputations directes sur l'état de leurs finances.
Ouais.
Et après, paf, il revient brusquement aux arrangements de sécurité avec la police londonienne.
C'est ça.
Et ce manque de compartimentation, c'est vraiment fatal pour la crédibilité de l'ensemble.
Parce qu'on n'a pas le temps de s'habituer, c'est ça.
Oui, le lecteur n'a pas le temps de consolider sa confiance envers l'auteur. Donc la suggestion ici, c'est de restructurer complètement l'article pour créer deux environnements de lecture bien distincts.
D'accord.
Il faut présenter d'abord un bloc inattaquable consacré exclusivement aux faits et à la logistique.
Ok.
Et ça serait suivi ensuite d'une seconde section qui serait, elle, dédiée à l'analyse des motivations.
Alors, je comprends l'approche consistant à regrouper les faits pour construire une fondation, mais n'y a-t-il pas un risque majeur que ces premiers paragraphes deviennent incroyablement secs ?
C'est le danger, oui.
Je veux dire, comment l'auteur peut-il créer ce bloc inattaquable sans perdre l'attention du lecteur dès la première minute avec une simple énumération d'agenda logistique ?
C'est un défi réel, mais le factuel n'est pas forcément synonyme d'ennuyeux. Pas si l'attention narrative est bien gérée. Il ne s'agit pas du tout de produire un rapport comptable, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est plutôt de planter le décor d'une manœuvre très complexe, en regroupant le départ de 2020, la scolarisation prévue d'Archie et Lilibet, et la recherche d'une résidence privée hors de Londres.
Ouais.
Bah, on esquisse l'ampleur d'un projet de vie. Et psychologiquement, le cerveau humain traite l'information par association, en fait.
Ok, c'est-à-dire ?
Bah, si une information vérifiée, disons un bail immobilier, côtoie de trop près une rumeur non fondée dans le même paragraphe, le scepticisme du lecteur s'étend à la totalité du texte.
Ah ouais ?
La crédibilité est contaminée par proximité, tout simplement.
C'est une dynamique fascinante, ça. C'est comme si je marche sur un plancher où une planche sur deux me semble fragile, bah je vais finir par marcher sur la pointe des pieds, même sur les planches en chêne massif.
Voilà.
Le lecteur devient méfiant par défaut, quoi.
C'est exactement le comportement qu'on veut éviter à tout prix. Et pour y remédier, l'auteur doit opérer une bascule vraiment explicite une fois que ce décor est posé.
Ouais.
Après avoir consolidé tous les faits dans les deux premiers paragraphes, il faut utiliser une charnière de transition.
T'aurais un exemple de transition ?
Bah par exemple, il pourrait écrire « Bien que cette logistique de retour soit formellement documentée, les facteurs motivant ce redéploiement transatlantique sont restent complexes et sujets à caution. »
Ah, c'est pas mal ça.
Cette simple phrase, en fait, elle agit comme un sas de décompression.
Elle prévient les cœurs que là, on quitte le sol ferme du factuel et qu'on part explorer le territoire beaucoup plus nuancé de l'analyse des motivations.
D'accord. Mais même lorsqu'on franchit ce sas pour entrer dans l'analyse, je dirais que la gestion de ces zones d'ombre, ça demande une grande prudence.
Ok, oui.
Je vois très bien ce que l'auteur essaie de faire ici en abordant frontalement les rumeurs pour pouvoir les déconstruire immédiatement.
Oui.
Mais en observant la manière dont il traite la question financière dans cette seconde partie, bah, l'image qui m'est venue en tête, c'est celle de quelqu'un qui allumerait volontairement un feu de joie au milieu d'une pièce,
oui,
juste pour prouver à son auditoire qu'il sait super bien utiliser un extincteur, tu vois.
C'est tellement ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'accorder autant d'espace textuel à une spéculation sur la fin de certains contrats commerciaux ? Pour conclure, limite hors d'haleine, qu'il n'y a en fait aucune preuve d'une crise de liquidité.
C'est le problème. L'utexte accorde un poids éditorial totalement disproportionné à la spéculation financière. Et ça nous amène à une faiblesse très connue liée à l'effet de vérité illusoire.
L'effet de vérité illusoire, d'accord.
Ouais, En introduisant l'idée d'une crise financière, pour la démentir juste l'instant d'après, l'article risque paradoxalement de légitimer la rumeur dans l'esprit du public.
Ah bah oui, on retient le mot « crise », quoi.
Exactement. L'auteur écrit « Certains commentateurs se demandent si leur situation financière a influencé la décision ».
Ouais.
Et ensuite, il consacre de longues lignes à expliquer pourquoi c'est faux. Mais le cerveau humain a d'abord dû visualiser cette crise financière pour comprendre le démenti.
C'est vrai.
Donc la suggestion ici, c'est de recadrer fondamentalement cette donnée en l'intégrant hyper naturellement au contexte professionnel du couple.
Ok.
Et ça, sans utiliser toute cette rhétorique du mystère ou du scandale.
J'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur cet effet de vérité illusoire, parce que c'est super intéressant. Est-ce que tu as un exemple journalistique ou même de communication concret où cette volonté de démentir a produit l'effet inverse ?
Bien sûr, oui, je pense que c'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de gens tombent quand ils rédigent des trucs comme des mémos d'entreprise ou des analyses concurrentielles. Ah, c'est extrêmement fréquent, surtout en communication de crise. Prends la politique, par exemple.
Oui.
Un journal publie un article qui titre « Le candidat n'a pas détourné d'argent public, voici les preuves ».
Non.
Voilà. Le lecteur qui survole l'article ou qui le lit un peu rapidement sur son téléphone...
Il retient juste l'association, c'est ça
Exactement. Cognitivement, il ne retient que l'association entre le nom du candidat et les mots « argent public ».
C'est fou.
Le démenti agit littéralement comme un surligneur sur la rumeur.
Mm-hmm.
Et dans notre manuscrit, l'auteur tente de faire preuve de transparence. Il aborde les rumeurs des tabloïdes sur la fin des contrats de production du couple.
Ouais.
Mais en accordant genre trois phrases à la rumeur et une seule petite phrase à la vérité...
Ouais, c'est déséquilibré.
Bah oui, la proportion physique du texte, la quantité d'encre sur le papier, ça valide l'importance du doute.
C'est vraiment ça. Le volume d'encre dédié à une idée devient une preuve de sa pertinence aux yeux du lecteur.
C'est ça.
Alors, comment l'auteur peut-il désamorcer cette question sans donner l'impression d'ignorer un sujet dont absolument tout le monde parle sur les réseaux sociaux ?
Il faut changer de prisme narratif.
D'accord.
L'auteur doit traiter cette donnée non pas comme une accusation financière qu'il faut combattre, mais juste comme une évolution d'entreprise super logique.
Ah, intéressant.
Il faut remplacer tout ce vocabulaire du doute par celui de la stratégie.
Mm-hmm.
Concrètement, au lieu d'écrire que les commentateurs se posent des questions sur leurs finances, l'auteur pourrait formuler ça comme ça.
Ouais.
Leurs modèles commerciaux et caritatifs ayant naturellement évolué depuis leur installation en Californie en 2020, ce retour pourrait s'inscrire dans une nouvelle stratégie de redéploiement professionnel.
Ça sonne vachement mieux.
Et ensuite, il ajoute « Bien que certaines voix aient évoqué la fin récente de quelques contrats, aucune preuve factuelle ne permet de lier cette réorganisation géographique à une pression financière. »
Franchement, en formulant les choses ainsi, on reconnaît la réalité des faits. Oui, des contrats se sont bien terminés, mais on leur donne une signification totalement différente.
Voilà, c'est recadré.
Le débat, il est complètement étouffé par une logique d'entreprise implacable.
Mmh.
Mais tu sais, même si l'auteur recadre ce contexte avec une stratégie super habile,
ouais.
La phrase perdra tout son impact s'il n'assume pas sa propre expertise éditoriale derrière.
C'est vrai.
Examinons de près la section qui discute de l'évaluation des sources. En lisant ça, j'ai remarqué une vraie timidité linguistique, tu vois.
Oui.
C'est presque une paralysie de la plume. J'ai noté une abondance de formules du genre « les rapports indiquent que » ou « cette possibilité doit donc être identifiée comme une spéculation ».
Ah oui, très lourd.
Mais oui, j'ai eu l'impression d'entendre un avocat balbutiant qui s'excuserait presque de présenter ses pièces à conviction devant le jury.
C'est exactement ça. L'utilisation systématique de la voix passive et de toutes ces tournures impersonnelles, bah, ça affaiblit considérablement l'autorité du texte.
Ouais.
Et c'est souvent le symptôme d'une peur de la part de l'auteur. La faiblesse ici, c'est que le manuscrit adopte un ton bureaucratique, tu vois, c'est...
Très administratif, ouais.
Voilà. Ça dilue toute la force incisive qu'on attend d'une vraie synthèse journalistique de haut niveau.
Mm-hmm.
Donc la suggestion, c'est d'adopter une voix active super robuste.
D'accord.
D'affirmer les déductions avec un vrai aplomb et surtout de faire remonter les sources directement dans le corps du texte pour ancrer la crédibilité du propos.
Mais j'essaie de comprendre pourquoi tant d'auteurs tombent dans ce panneau, en fait.
C'est très courant.
Est-ce que cette voix passive, c'est pas simplement une tentative un peu maladroite de paraître objectif, en fait ?
Si, complètement.
On a l'impression, à tort je pense, que dire « il a été décidé », ça sonne plus neutre, plus scientifique presque, que de dire « ils ont décidé ».
Mais c'est exactement le mécanisme psychologique en jeu.
Ouais.
Beaucoup d'auteurs y confondent l'objectivité avec l'invisibilité.
Oh, c'est joliment dit, ça.
Ils pensent que s'ils cachent leur présence en tant que narrateur, le texte semblera purement factuel.
Mm-hmm.
Mais la voix passive, en fait, elle crée un vide de responsabilité.
Ouais.
Quand tu écris « il a été rapporté que », le cerveau du lecteur, de façon totalement inconsciente, il cherche un visage, il cherche une institution ou une personne à qui accorder sa confiance.
C'est clair.
En privant le lecteur de ce repère tangible, bah, tu crées un vide d'autorité. Et tu sais ce qui vient systématiquement remplir ce vide ?
Le doute.
Le cynisme du lecteur.
Ah ouais ?
Il se dit, si l'auteur n'ose pas affirmer d'où vient cette info, c'est qu'elle n'est pas fiable.
C'est un paradoxe fascinant quand on y pense. En voulant se protéger des accusations de parti pris par un excès de prudence, bah, l'auteur génère en réalité de la méfiance.
Absolument. C'est l'équivalent d'un guide touristique qui n'ose pas pointer du doigt le monument qu'il est en train de te montrer.
C'est ça.
L'auteur a pourtant fait un travail de recherche remarquable, tu sais. Il a d'excellentes sources qui sont listées tout en bas, en fin de document.
Ouais, il a du Reuters, de Guardian, c'est solide.
Mais oui, il ne faut pas les cacher dans les marges. Prenons un exemple concret du texte. Au lieu de la phrase super vague, les rapports indiquent que le couple a l'intention de vivre dans une résidence privée.
Ouais.
L'auteur doit injecter cette autorité institutionnelle dès le début de sa phrase. Ça devient « Selon les enquêtes de Reuters et du Guardian, le couple résidera dans une propriété privée en dehors du giron immobilier de la couronne. »
Ah bah oui. La différence de perception est colossale. Avec le verbe « résidera » direct au futur simple, porté par des agences nommées, bah, l'auteur ne se cache plus derrière le rideau, là. Il est carrément sur scène.
Exactement. Et cette posture, elle doit aussi s'appliquer à la portion analytique.
Ok.
Le texte disait « Cette possibilité doit donc être identifiée comme une spéculation. »
Très lourd.
C'est une injonction molle, tu vois.
Ouais.
Il faut la transformer en un constat tranché d'expert. Tu dis « Sans preuve tangible, l'hypothèse d'une motivation financière relève aujourd'hui de la pure spéculation.
C'est beaucoup plus fort.
On passe d'une hésitation un peu administrative à une affirmation éditoriale super forte.
Et tu vois, une fois que l'auteur a nettoyé son architecture comme ça, qu'il a désamorcé les pièges cognitifs de la rumeur et qu'il a musclé sa syntaxe, bah, il reste l'épreuve ultime de tout texte d'analyse, l'atterrissage.
La fameuse conclusion ?
Exactement. D'après ce que je comprends des notes de l'auteur, l'argument global ici, c'est que ce retour est multidimensionnel, mais cherchons à savoir comment rendre la conclusion finale plus percutante.
Ouais.
Un grand chef d'orchestre, il termine pas une symphonie en rangeant simplement ses partitions une par une.
C'est sûr.
Mais la conclusion actuelle, franchement, elle ressemble à un inventaire. C'est comme si l'auteur avait passé tout le repas à me lister méthodiquement les ingrédients d'une recette. Genre la farine, les œufs, la levure, sans jamais me décrire la saveur du gâteau une fois sorti du four, quoi.
C'est très frustrant.
J'arrive à la dernière ligne et je me demande viscéralement où quel est le véritable impact de tout ceci. Quel est le sens profond de ce déménagement ?
Bah, la conclusion actuelle, elle souffre de ce qu'on appelle souvent le syndrome de la liste de courses.
Ouais.
Et ça prive l'article de toute résonance à long terme. La faiblesse, elle réside dans le fait que le texte se contente d'énumérer, vraiment sous forme de puce littérale, les facteurs possibles de ce retour.
L'éducation, tout ça.
Voilà, l'éducation des enfants, les relations familiales tendues, la perte de la sécurité financière par l'État.
C'est un peu redondant, du coup.
C'est un simple résumé très paresseux qui regarde vers le passé de l'article au lieu de regarder vers l'avenir. Et en faisant ça, l'article manque totalement d'un angle fort sur le « et alors » de la situation.
Le fameux « so what ».
Exactement. Donc la suggestion, elle est radicale mais nécessaire. Il faut supprimer cette liste à puces et la remplacer par une véritable synthèse analytique qui va, elle, élever le débat.
J'avoue que j'ai souvent du mal avec cet équilibre critique moi-même.
C'est pas facile, ouais.
Comment l'auteur peut-il synthétiser la complexité d'une situation sans simplement répéter ce qu'il a déjà écrit ? Et aussi, comment il peut projeter le lecteur vers l'avenir sans tomber dans la pure science-fiction journalistique, hein ?
Bah, la différence entre un résumé et une synthèse, c'est vraiment fondamental ici. Un résumé, ça condense les faits. Une synthèse, ça révèle le motif caché derrière ces faits.
D'accord.
Et pour éviter la science-fiction, il faut s'appuyer sur le précédent historique que cette situation spécifique crée. L'auteur, il doit s'élever au-dessus de la petite querelle sur les écoles ou les gardes du corps, etc.
Ouais.
Pour observer le vrai tableau d'ensemble. Le couple tente de créer un précédent inédit dans l'histoire moderne de la monarchie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire bénéficier d'une vie américaine complètement indépendante, très commerciale et affranchie, tout en forçant un nouvel ancrage privé au cœur même du Royaume-Uni.
Ah ouais, c'est un paradoxe énorme.
Et la conclusion doit absolument capturer cette tension, qu'elle soit géopolitique ou personnelle.
Tu pourrais nous donner une idée concrète de la forme que prendrait cette synthèse pour clôturer l'article ?
Bien sûr.
au lieu de finir sur une phrase introductive super molle, genre « plusieurs facteurs peuvent donc être pertinents pour expliquer ce retour ».
Ouais, ça c'est nul.
Ouais. Bah, l'auteur devrait fermer l'article avec une réflexion qui donne tout son poids au texte.
Vas-y.
Par exemple, finalement, ce retour prévu en 2026 s'annonce moins comme un retour aux fonctions royales traditionnelles qu'une tentative inédite d'établir un équilibre hybride.
Oh, équilibre hybride, j'aime beaucoup.
Et ensuite, il termine avec OC, loin des simples considérations logistiques, la gestion de leur sécurité par des moyens privés et l'évolution de leurs relations familiales de part et d'autre de l'Atlantique constitueront le véritable banc d'aisselle de cette nouvelle indépendance. Ce déménagement ne se contente pas de changer une adresse, il teste les limites de ce que signifie être affilié à la couronne au XXIe siècle.
C'est franchement ce concept d'équilibre hybride, ça donne soudainement une profondeur sociologique à ce qui n'était au départ qu'une simple histoire d'immobilier et de rentrée scolaire.
Complètement.
Le lecteur, là, il comprend immédiatement pourquoi il a investi son temps et son attention intellectuelle dans cette lecture.
C'est le but d'une bonne chute.
Et tu vois, pour tous ceux qui nous écoutent et qui rédigent au quotidien des articles, des mémos ou même des analyses complexes, la leçon tirée de ce manuscrit, je trouve qu'elle est universelle.
Oh oui.
Ne laissez pas le bruit de fond ou les rumeurs dicter l'architecture de votre pensée. La rigueur intellectuelle, ça consiste pas à donner un temps de parole égal aux faits et aux rumeurs, mais à hiérarchiser l'information de manière vraiment implacable.
C'est le cœur du métier. La construction d'une autorité intellectuelle sur le papier, ça se fait pas par la compilation prudente d'informations disparates. Ça se fait par la maîtrise assumée de la structure et du verbe, que ce soit en séparant physiquement les fondations irréfutables de l'analyse spéculative,
ouais,
ou en refusant de prêter le flanc aux rumeurs futiles par des mécanismes psychologiques un peu maladroits, tu vois.
C'est ça.
Ou même, comme on l'a vu, en adoptant une voix active et incarnée. L'objectif final reste toujours le même, hein, devenir le guide de confiance de votre lecteur et non pas son simple greffier.
Exactement. Écoute, nous tenons à remercier chaleureusement l'auteur pour la soumission de ces documents vraiment passionnants. L'exercice de la critique, ça exige d'accepter que même les textes les plus fouillés peuvent gagner en puissance grâce à un regard extérieur.
C'est le jeu, ouais.
Donc nous vous invitons avec un grand enthousiasme à nous renvoyer votre prochaine ébauche, une fois ces ajustements structurels et stylistiques intégrés, histoire de poursuivre ce travail de fond tous ensemble.
Hâte de lire ça.
Gardez en tête que la neutralité ne doit jamais être le masque de la timidité. L'objectivité véritable, c'est d'avoir le courage éditorial de regarder les faits en face, de les nommer avec une précision chirurgicale et de laisser les spéculations s'éteindre d'elles-mêmes, privées de l'oxygène de notre attention. À la prochaine fois.
À la prochaine.